Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Voilà, nous sommes là tous les jours pour vous rendre service et merci de nous recevoir chez vous sur la fréquence de la paix sur www.radiookapi.net. Alors, si votre émission, vous voulez participer, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Le premier thème que nous allons aborder dans quelques instants, nous allons parler de la recherche scientifique à l'université. Les étudiants finalistes doivent mener des recherches en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Alors, ils vont produire à la fin de d'un cycle leur mémoire, ils vont produire les travaux des fins des cycles. Voilà. Mais cependant, dans bon nombre d'universités, à travers le pays, le plagiat est devenu la règle. Bon nombre d'étudiants paresseux, bon, ils se contentent tout simplement d'aller recopier. Littéralement, c'est que les autres ont fait et a changé carrément de nom et voilà, on va défendre un travail qu'on n'a pas réalisé. Alors, mais comment entreprendre une recherche scientifique? Quelles sont les étapes à suivre pour mener cette recherche? Voilà, c'est le thème que nous allons aborder dans cette première partie de l'émission avec le professeur Célestin Dimanja. Il est expert en méthode de recherche en sciences sociales. Il nous dira comment mener une recherche, comment rédiger un travail, voilà. Et c'est le thème que nous allons aborder tout à l'heure. Vous avez des questions, des préoccupations, le standard est déjà ouvert. Appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net ou faites-nous parvenir vos SMS au 081-711-50-01. Professeur Célestin Dimanja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en méthode et recherche en sciences sociales. Alors, professeur, nous parlons aujourd'hui de comment entreprendre, de comment mener la recherche scientifique à l'université. Alors, la première question est de savoir, c'est quoi la recherche scientifique?
Merci bien pour la question. La recherche scientifique, c'est l'une des trois grandes missions de l'université. Il y a l'enseignement, le service à la société et la recherche. Par la recherche, on entend un ensemble d'activités qui concourent à ce que vous venez de dénoncer tout à l'heure, à la production des connaissances. L'étudiant qui arrive à l'université doit savoir qu'il doit s'attendre non seulement à acquérir des connaissances, c'est ça l'enseignement, à devoir servir tôt ou tard la société, mais aussi à produire, à contribuer à la production des connaissances. Évidemment, ça dépend de niveau. Au niveau du premier cycle, ce que l'on attend de la recherche scientifique, c'est plutôt une certaine capacité à la recherche. Au niveau de la licence de l'étudiant, on attend un peu plus de maturité dans cette production des connaissances. Et au niveau le plus élevé, là, c'est l'obligation de produire des connaissances véritablement nouvelles. C'est à cela que consiste la thèse de doctorat.
Voilà. Et quels sont les types de connaissances que l'étudiant doit produire?
Des connaissances théoriques, parce que l'université vise d'abord la science. À l'université, on ne peut jamais faire de l'économie de la théorie, mais ces connaissances théoriques doivent aboutir à des propositions d'action concrètes. C'est ça l'aspect pratique de la recherche. L'étudiant doit donc savoir naviguer entre la théorie et la pratique, tout comme ses professeurs, ses encadreurs, qui vont l'aider à atteindre cet objectif.
Voilà. Et comment produire ces connaissances? Quelles sont les étapes à suivre pour arriver à produire des connaissances scientifiques?
Pour produire des connaissances scientifiques, c'est-à-dire pour mener la recherche, il faut d'abord se poser des problèmes précis, il faut développer une problématique.
Oui.
Et quand vous avez développé votre problématique, c'est-à-dire, par là, il faut entendre les questions principales que vous vous posez, les hypothèses que vous allez émettre et la manière dont vous allez conduire la recherche. Et tout cela constitue ce qu'on appelle la problématique. Mais quand vous avez posé ces questions, que vous les avez formulées clairement, vous devez montrer que vous aurez à vous démarquer par rapport à des connaissances antérieures. Et c'est là que sert ce qu'on appelle les orientations bibliographiques. On ne fait pas de recherche comme ça en l'air. Il faut toujours s'appuyer sur une tradition qui vous a précédé et par rapport à laquelle vous allez démontrer la nouveauté ou le caractère novateur de votre recherche. Donc, il y a d'abord la problématique et puis définir les orientations bibliographiques, c'est la deuxième étape, si vous voulez.
Oui.
Et en même temps, il faut clairement dire quelles sont les méthodes que vous allez utiliser, les techniques que vous allez pratiquer. Entre les techniques et les méthodes, il y a un rapport d'inclusion, si vous voulez. Les méthodes sont constituées de plusieurs techniques. C'est l'ensemble de techniques arrêtées pour une recherche donnée qui vous donne lieu à la méthode. Et ces techniques ne sont pas toujours données à l'avance. Il est permis à tout chercheur de les inventer et de les expérimenter et de montrer à quoi ça conduit effectivement. Après la problématique, les orientations bibliographiques, les méthodes et les techniques,
oui.
Il faut donner un titre, au moins provisoire, à votre recherche. Ça fait partie de la recherche. C'est un élément important. Vous devez, par une formule concise, une expression, un mot, une phrase, peu importe, dire quel est l'objet sur lequel va porter votre recherche, et comment formuler votre sujet. Alors, après cela, il faut passer à l'élaboration du plan. Quand vous avez élaboré le plan, tout cela en accord avec votre encadreur ou votre comité d'encadrement,
oui.
Vous allez arrêter ensemble le calendrier des étapes. Il faut inscrire ça dans le temps. On ne peut pas consacrer pour un mémoire de graduat, par exemple, 5-6 ans. Ça n'aurait pas de sens, hein, parce que vous n'avez que 3 années pour le premier cycle. De même, en licence, on ne dispose que de 2 ans. Pour le doctorat, ça devient un peu différent. Ça dépend d'un domaine à l'autre. Mais généralement, les universités conseillent de s'en tenir à peu près à 5 ans.
Bien.
Voilà.
Alors, professeur, par exemple, on va partir d'un exemple concret. Je veux, par exemple, mener une recherche sur le banditisme des rues, le
oui.
phénomène Kuluna, par exemple. Alors, comment développer la problématique et respecter toutes ces étapes dont vous venez
oui.
de faire allusion?
Qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ce phénomène Kuluna? Est-ce qu'il s'agit de définir la tranche d'âge qui est plus concernée par ce phénomène, ou bien il s'agit d'étudier les mesures, disons, qui relèveraient par exemple la criminologie, comment mettre fin à ce crime, et dans quel quartier voulez-vous vous intéresser? Vous ne pouvez pas étudier le phénomène Kuluna d'emblée comme ça, sur une étendue comme celle de toute la République du Congo.
Oui.
Donc, il faudra d'abord préciser quel est l'objectif que vous poursuivez et déterminer dans quel cadre vous allez mener cette recherche. Est-ce dans la commune de Bandalungwa, dans la commune de Kinshasa ou dans toute la ville de Kinshasa? Et de quelle date à quelle date? C'est tout cela qui va vous conduire progressivement vers la définition de votre recherche.
Voilà. Donc, il faut se poser toutes ces questions, il faut penser à tout cela pour dégager la problématique.
Absolument.
Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Alors, après cette étape, quelle est l'étape suivante?
Vous allez vous documenter. La documentation, l'étape documentaire peut consister, par exemple, à rechercher s'il y a eu des phénomènes semblables dans l'histoire du pays, ou dans les pays voisins, ou dans les villes voisines. Je sais de quoi je parle parce que précisément, il y a un étudiant qui mène sa recherche sur le phénomène Kuluna.
Oui.
Et avec lui, on a découvert que le phénomène n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Au Nigeria, c'est fort développé. Au Ghana, la même chose. Mais c'est grâce à la recherche documentaire que nous sommes en train de découvrir progressivement avec lui ce qui se passe avec les jeunes délinquants qui s'adonnent à la violence, au vol à main armée, etc.
Mmh. Bien, donc il faut se documenter. Pour se documenter, il faut lire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais,
oui.
Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que bon nombre d'étudiants, lorsqu'ils vont dans les bibliothèques, par exemple, c'est pour s'adonner au plagiat au lieu de s'inspirer de ce que font les, de ce que les autres ont fait dans le domaine précis.
Je crois que c'est surtout par manque d'initiation correcte à la recherche. Parce que en matière de travail intellectuel, l'une des fautes les plus graves, c'est le plagiat. Hein, aller simplement copier, cacher les sources au lieu de les indiquer, s'attribuer des pensées qui ne sont pas à vous, tout cela participe du plagiat. Mais je dois dire que c'est un phénomène parfois difficile à établir, hein, parce que le plagiat, pour l'établir, pour que ce soit accepté, il faudra éventuellement aller jusqu'au tribunal.
Voilà.
Mais c'est vrai que beaucoup de gens paraissent, et pour n'avoir pas suffisamment été préparés à la recherche, préfèrent des voies très courtes, hein, des raccourcis pour recopier tel ou tel élément. Et ce n'est pas signe d'une bonne formation universitaire.
Voilà. Voilà. Et nous savons que, par exemple, dans certaines universités à Kinshasa, l'accès aux travaux dans les bibliothèques de l'Institut sont limités. Il y a des restrictions parce que certains étudiants aiment la facilité. Ils vont carrément recopier ce que les autres ont produit. Nous avons des auditeurs en ligne. Victor Ingopa nous appelle des Kananga. Et Daddy Makambo de Kinshasa, vous voulez également participer. Appelez-nous au 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment faire la recherche scientifique à l'université Victor Ingopa? Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Capi. Merci bien de m'avoir donné la parole pour participer à ce sujet très important. Et Jody, je viens de suivre l'invité à long et à large.
Oui.
Et je veux d'abord apporter aussi ma contribution. C'est que les étapes à suivre pour réaliser un travail scientifique. À ma connaissance, je peux citer peut-être cinq étapes, si vous le permettez. Il y a d'abord l'exploration du sujet, l'appropriation ou la maîtrise du sujet, l'expérimentation des chercheurs, traitement des données et la rédaction aussi. Alors, le problème se pose au niveau de la rédaction. Si l'invité peut avoir l'amabilité de nous expliquer, au niveau de la rédaction, tous les éléments qui constitue réellement la rédaction. Parce qu'actuellement, il y a les autres qui commencent avec les dédicaces, et vous voyez par après les plans du cours, bon, ça se fait comme ça. Il y a les autres même qui font l'inverse de cela. Alors, lorsque vous lisez certains textes, bon, vous voyez que futur inventaire d'un texte, vous ne vous retrouvez pas. Alors, si l'invité peut avoir l'amabilité de nous expliquer un peu cela. À part cela, je peux aussi poser deux petites questions, et ça va. Est-ce que l'invité peut nous donner la différence, donner les différentes catégories de sciences, les différentes catégories de sciences? Et la deuxième question était celle de savoir, est-ce qu'il existe une différence entre les sciences appliquées expérimentales ainsi que les sciences empiriques? Voilà un peu mes deux
questions. Victor Ingopa, aujourd'hui on ne parle pas de cela, peut-être une prochaine fois aujourd'hui on parle essentiellement de la recherche scientifique, comment élaborer un travail. Merci d'avoir appelé. Daddy Makambo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre question par rapport à ce thème?
Moi, bon, peut-être ça peut être une petite contribution. Je ne vais pas ici revenir si c'est que l'expert professeur a tout dit concernant la rédaction d'un travail de fait de cycle de mémoire. Mais je vais plus focaliser mon intervention sur les caractères plagiat que vous avez à poser au professeur, et
oui.
Il a répondu que pour établir qu'il y a plagiat, il faut aller dans des cours et tribunaux. Mais moi, je pense que, en amont, c'est d'abord les professeurs qui doivent savoir que non, mon étudiant a fait le plagiat sur un travail déjà travaillé. Et moi, je constate que la plupart des noms d'universités, si vous y allez, vous, à votre qualité de journaliste, vous allez constater qu'il y a plusieurs travaux, des faits, des cycles ou des mémoires où on échange que les noms. Mmh. On prend par exemple les travaux qui ont déjà été faits, par exemple en 2004 et en 2006 ou 2010, un étudiant prend une échange que son nom et puis il défend. Et les constats malheureux, c'est quoi? Si vous allez dans une université, vous trouverez que l'étudiant chercheur et son directeur professeur n'ont des contacts que les jours de l'introduction et les jours où l'étudiant va pouvoir déverser les frais pour l'encadrement. Et troisième rencontre, c'est les jours de la défense. Et durant l'élaboration de son travail, il n'a jamais eu le temps de voir les professeurs pour qu'ils puissent les conduire dans cette recherche. Vraiment, c'est ce que nous déplorons.
Mmh. Merci, Dadi Makambo. Professeur Dimanja.
Je l'ai bien suivi. Mmh. Et merci pour les aspects qu'il a soulevés. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans certaines universités, on a interdit l'accès aux travaux antérieurs. Mmh. C'est une bonne chose pour éviter justement ce système de copiage, de reproduction pure et simple de travaux antérieurs. C'est très bon. Mais il y a aussi un autre aspect qui ne permet pas aux nouveaux chercheurs de se positionner par rapport aux anciens. Là, je crois que c'est un problème de réglementation interne à chaque institut, à chaque établissement. Je vois, il fait allusion par exemple au fait que certains professeurs ne voient l'encadré au tout début et puis juste à la fin pour encaisser ses frais ou quoi. Non.
Et le jour de la défense?
Le jour de la défense, non. Dans les cours que nous donnons, nous prévoyons tout un chapitre sur la manière dont il faut concevoir le directeur de mémoire ou le directeur de thèse. C'est quelqu'un qui est désigné par l'institution au nom, en raison de sa compétence pour précisément accompagner l'étudiant, l'aider à éviter, par exemple, ces histoires de plagiat,
oui,
l'aider à développer son propre style, l'aider à apprendre comment saisir la pensée ou les travaux, le contenu des travaux antérieurs et à pouvoir se positionner par rapport à cela. Parce que c'est par rapport aux travaux antérieurs qu'on peut apporter des nouveautés. Donc, je ne conteste pas la mesure qui consiste à interdire aux étudiants l'accès aux travaux antérieurs, mais ça peut contribuer aussi à la tentation du plagiat, justement. Hein, mmh. Parce qu'ils ne savent pas prendre position et probablement le directeur lui-même ne maîtrise pas les compétences qui lui sont reconnues et il ne sait pas dire à l'étudiant ce qu'il peut lui apporter. Tout cela est développé dans des enseignements qui montrent comment concevoir le directeur, quelles sont ses compétences, quelles sont ses performances. Quand je dis compétences, il faut comprendre ceci. Hein. Mm-hmm. Quelqu'un peut, par exemple, comme nous parlons le français, il y a des gens qui connaissent la grammaire. Mais au moment de parler, ça devient autre chose. Donc là, les performances ne s'attestent pas correctement.
Bien. Alors, Victor de Kananga vous a posé la question de savoir comment rédiger le TFC, comment faire la rédaction. D'après lui, il y a certains qui commencent par la dédicace, ils commencent par autre chose. Bon, ils ne se retrouvent pas. Alors, quelle est la procédure pour bien rédiger? On a tous les éléments qu'il faut maintenant. Comment les rédiger?
La rédaction est fonction du plan arrêté par le rédacteur, hein, par celui qui fait son mémoire. On ne peut pas dire il faut commencer par la dédicace. Dans le travail final, oui, on va vous laisser des espaces et des libertés pour exprimer votre reconnaissance, votre sympathie, vos relations, etc. Mais ça, c'est dans le travail final. Mais normalement, si vous procédez comme je l'avais proposé, en définissant clairement les questions auxquelles votre travail doit répondre, eh bien, à partir de là, vous élaborez déjà un plan. La difficulté de la rédaction vient souvent du fait qu'on se lance comme ça dans l'écriture sans savoir par où commencer et par où terminer. Savez-vous que, généralement, l'introduction à un travail, c'est pratiquement la dernière partie que l'on rédige. Parce que vous ne pouvez pas introduire à quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, il faut développer les différents aspects du contenu, les différents chapitres du travail, vous concluez, et une fois que vous avez tous ces éléments-là, au vu de ce qui est réellement disponible dans votre texte, vous savez comment amener votre lecteur à comprendre comment vous avez conçu le problème, comment vous l'avez subdivisé et à quelle conclusion vous pouvez arriver. Donc,
voilà.
Il faut éviter, comment dirais-je, des automatismes de la part des personnes qui disent « il faut commencer par ceci, il faut commencer par cela ». Généralement, le travail commence par le corps. Et on continue jusqu'à la conclusion. Quand on dispose de l'ensemble du travail, on sait à quoi on introduit.
Voilà. Nous avons Aline Sinetti depuis Butembo, Nord Kivu. Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Sinetti? Nous parlons aujourd'hui de comment entreprendre la recherche scientifique à l'université.
Oui, en fait, j'ai une préoccupation auprès de notre invité.
Oui.
Oui, je voudrais savoir, dans un travail de recherche, ce qu'on vise fort, c'est la nouveauté. Comment est-ce qu'un étudiant saura que son travail est encore nouveau, étant donné que tout est déjà fait? C'est ça ma question.
Bien, comment l'étudiant saura qu'il a apporté une nouveauté par rapport aux travaux antérieurs? Merci Sinetti. Freddy Kabamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur, notre invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Ça va. Moi, j'ai des questions à demander à notre invité. Première question, comment on peut un étudiant qui sort peut-être en brousse, qui a étudié dans les universités, qui est peut-être au niveau des caminats quelque part, s'il vient ici, peut-être suivre la licence, il est toujours complexé. Comment on peut l'aider? Deuxième question, comment on peut aider encore un étudiant orgueilleux? Si on l'envoie
Freddy Kabamba. Oui, j'ai dit à l'introduction que nous parlons de la recherche scientifique. Hein, comment entreprendre une recherche à l'université? Alors, poser des questions en rapport avec le thème de ce jour.
Ça va, merci.
Oui, allez-y. Allez-y rapidement.
Bon, comment on peut aider un étudiant qui arrive devant les professeurs pour qu'ils les donnent les matières? Souvent, les professeurs, au lieu d'aider un étudiant, comme ça, il demande de l'argent. Comment on peut aider un étudiant qui arrive comme ça, brusquement, que non, professeur, je veux que vous m'aidez, ceci, cela. C'est ce que je demande comme ça, en bref, merci.
Bien, voilà, il y a bien sûr des enseignants qui demandent d'abord l'argent, qui exigent à l'étudiant de payer avant de pouvoir lui assurer un encadrement dans la rédaction de son travail. Professeur Dimanja.
Oui, si cela arrive, ce sont des excès, ce sont des déviations, parce que normalement, la direction du travail est définie clairement dans les textes de différents établissements et dans tous les cours de méthodologie de la recherche. Bon, je ne pense pas, enfin, je ne mérite pas parler au nom de tout le monde, mais moi je n'ai pas encore vécu ce cas où l'étudiant est bloqué dès le départ parce qu'il n'a pas encore donné l'argent.
Bien. Sinetti de Butembo vous pose la question de savoir comment l'étudiant saura que son travail, sa recherche apporte une nouveauté à la science par rapport aux travaux antérieurs.
C'est là qu'intervient l'expérience du promoteur. Déjà, au niveau de la qualité des questions que vous vous posez dans votre recherche, on peut dire effectivement, ce thème a déjà été traité, mais ça n'a pas été vu sous tel angle. Il y a peut-être telle dimension qui était restée dans l'ombre, et normalement, le promoteur a intérêt à révéler cela à l'étudiant et à l'aider à en prendre conscience et à creuser dans le sens, effectivement, d'atteindre de l'originalité. L'originalité est toujours relative. C'est toujours par rapport à ce qui a été fait avant. Tu comprends mes réticences par rapport aux universités dans lesquelles les travaux sont comme cachés, etc., comme s'il s'agissait de l'ésotérisme.
Voilà, et Serge Katende nous a écrit depuis Kananga, il dit « J'aimerais que le prof me donne la différence entre le but et les objectifs d'une recherche scientifique. »
Bon, entre but et objectif, ça dépend du langage de chacun, mais le but peut être estimé comme ce que je disais tout à l'heure, la production de connaissances nouvelles. Ça, c'est le but général. Mais dans chaque travail particulier, cet objectif, ce but général est visé au travers des objectifs plus ou moins précis. Ce qu'on appelle objectif, c'est par exemple ce à quoi vous conduit chacune des hypothèses que vous avez émises dans votre travail. Les objectifs sont donc plus limités au cadre de recherche, mais le but général, c'est ce que je vous ai dit, la production de connaissances, l'entretien de connaissances, le progrès de la science.
Bien, Dandy Kanka nous a écrit depuis l'université de Mweneditu. Il dit ceci, professeur, que conseillez-vous à ces universités où l'on élabore un travail scientifique en 3 ou 4 mois?
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 3-4 mois, bon, ça dépend, hein. On peut avoir des talents vraiment extraordinaires. Mais une bonne recherche s'étend sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, hein, pour être sûr de maîtriser les différents aspects de votre recherche. C'est pour cela que nous avons parlé du calendrier des étapes. Hein. Dans les étapes, il faut prévoir le premier contact avec le promoteur, et vous n'y allez pas pour dire « je voudrais faire simplement un mémoire sous votre direction ». Vous allez avec des propositions de sujets. À l'université, c'est cela qui est intéressant. Le chercheur est toujours impliqué, doit toujours être impliqué dans ce qu'il fait. Ne choisissez jamais un sujet pour lequel vous n'avez aucun intérêt. Parce que peu de temps après, vous risquez de tout laisser tomber, faute de motivation. Donc, il faut avoir des motivations, il faut élaborer ce choix et rester ouvert à la direction, aux orientations que l'encadreur peut vous proposer.
Mitterrand Mubanda nous appelle des Kikwit dans la province du Bandundu. Bonjour Mitterrand.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. Avant, j'ai au principe deux questions. Avant d'y parvenir, j'aimerais bien dire ceci. Je suis étudiant à l'IST Kikwit. Je suis juste en deuxième licence en histoire. En fait, le cours de l'initiation à la recherche scientifique, c'est un cours que j'avais bien maîtrisé parce qu'il m'avait été dispensé par mon professeur Koumarel, que je salue en passant. Nous, ici à Kikwit, toujours pour lutter contre le plagiat, les autorités ont interdit aux étudiants de ne plus consulter le TFC, seulement les mémoires et les livres. Mais le constat est que nos bibliothèques ne sont pas riches, nous n'avons pas assez de livres. J'ai suivi le professeur, lorsqu'il a commencé à introduire, n'est-ce pas, l'émission, il a dit, après le choix du sujet, l'étudiant est placé devant une problématique qui est une question centrale à laquelle tourne toute sa recherche.
Oui.
Et après cette question, l'étudiant doit faire l'heuristique. Il doit aller sur le terrain faire la collecte des données et ensuite de réaliser la synthèse plutôt. Mais maintenant, la question que je demande, ou que je lui pose, après le récit, l'étudiant doit en fait avoir aussi le plan, c'est-à-dire le statut de son travail. Mmh. Et pour réaliser ce plan, l'étudiant doit se référer des travaux antérieurs ou il doit se référer seulement des données qu'il a eues sur le terrain, donc pour les données qu'il a reçues à partir de le récit. Ça, c'est un. De deux, on venait de lui poser la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un travail peut faire 4 mois? Il a dit qu'un bon travail doit faire plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est comme s'il n'a pas précisé. Alors qu'il est spécialiste, est-ce qu'il peut nous dire vraiment un bon mémoire peut faire combien de mois pour qu'elle soit réalisée? Alors, pour terminer, quels sont les critères pour qu'un travail de fin d'études distingue? Voilà, je vous remercie. C'est Mitterrand, parce que tu quittes.
Merci. Professeur Dimanja.
Bien. La durée moyenne pour la préparation d'un mémoire, je peux vous dire que ça tourne autour de 24 mois minimum. Hein, par exemple, pour la licence, c'est au niveau de la première licence déjà que vous devez commencer à préparer le mémoire. C'est là que vous commencez à élaborer le calendrier des étapes jusqu'à définir à quelle session le travail sera terminé. Moi, je crois, je suis prêt à vous envoyer des fiches que vous pouvez mettre sur votre site. Mmh. Ça sera plus simple. Il y a des questions sur lesquelles on pourrait s'étendre énormément.
D'accord.
Oui. Alors... Le plan est indispensable. Le plan, c'est l'avant-dernière composante, si vous voulez, qu'il faut absolument élaborer. Il ne faut jamais sauter cette étape. Le plan permet de voir clair, le plan permet de créer son fichier de travail, c'est-à-dire quand vous allez commencer à lire ou à recueillir les informations, c'est grâce au plan que vous saurez dire tel élément viendra dans telle partie de mon travail. Tant que vous n'avez pas le plan, ça peut être de bonnes informations à côté desquelles vous passez. Et quand il n'y a pas de bonnes informations scientifiques, quand on se contente de dire ce que tout le monde raconte dans la rue, et c'est impossible de s'attendre à obtenir une distinction comme l'ami le souhaite. Mais la distinction, c'est une décision du jury. Il n'y a pas de critère préalable pour cela, à part le fait de dire que ça doit être un bon travail, un travail bien argumenté, bien charpenté, dont le plan est clair. Le plan peut être linéaire, il peut être diachronique, il peut être dialectique, etc. Ça, ce sont des détails sur lesquels on s'étend pendant que se donne le cours.
Bien. On va terminer avec la question de Léonard de Kananga. Est-il possible de réaliser son TFC seulement avec les ouvrages sur Internet? Si on se trouve incapable, peut-on demander à quelqu'un d'autre de rédiger le travail à votre place?
Non. Le travail de mémoire, que ce soit au graduat, en licence et surtout au doctorat, c'est toujours un travail personnel. On insiste sur le caractère personnel du travail. On peut autoriser que deux étudiants travaillent sur le même sujet, mais même alors, on doit, au moment de l'évaluation, savoir quelle a été exactement la contribution de chacun. Il y a de mémoire à plusieurs auteurs maintenant, c'est courant.
Oui.
Mais à chaque fois, on demande quelle a été la part de chacun. C'est dire à quel point le caractère personnel de la recherche prime sur tous les autres éléments. L'Internet, c'est une source incroyable, insondable d'informations. Et là où il n'y a pas d'ouvrage physique, l'Internet est indispensable. Quelqu'un a parlé de Kamina. Mais à Kamina, je sais qu'il y a un bon parc informatique.
Donc l'Internet est une source d'information, mais doit-on se contenter seulement des ouvrages ou des informations recueillies sur Internet?
Je ne dis pas qu'il faut se contenter seulement de cela, mais c'est une source à ne pas négliger, surtout dans nos pays où les bibliothèques ne sont pas développées.
Bien, merci professeur Célestin Dimanja. Je rappelle que vous êtes expert en méthode et recherche en sciences sociales. Merci d'avoir répondu à nos questions et à celles des auditeurs, et à la prochaine.
Je vous remercie, Jody.